Philippe à Rimes, le 22 août 95, de première conférence.
Nous avons commencé donc hier à entrer dans l'Apocalypse avec le souci du théologien de l'économie divine, puisque Vatican II nous demande de reprendre toute la théologie dans la lumière de l'économie divine. C'est-à-dire de découvrir toute la théologie à travers le cheminement, la croissance de l'Église dans son pèlerinage terrestre. La mission de l'Église. Et je vous rappelais ce que le Saint-Père disait dans sa première encyclique, Redemptor Hominis, que la mission d'Église et la mission du Christ sont substantiellement les mêmes. Elles sont deux modalités totalement différentes, c'est bien évident. Mais même finalité. Alors, ce qui impressionne tout de suite au point de départ, c'est que on est en présence de Jésus dans sa gloire comme grand prêtre. La glorification du sacerdoce de Jésus. Et c'est vrai, théologiquement, c'est ça qu'il faut bien saisir. L'évangile de Jean nous aide à comprendre l'Apocalypse. Puisque l'évangile de Jean regarde Jésus, l'Apocalypse regarde l'Église. Donc on passe tout le temps de l'un à l'autre. L'Église implique un devenir, une croissance. Mais cette croissance est divine, donc elle implique une présence. C'est ça qui est impressionnant, que l'Apocalypse nous montre tout de suite cela. Jean nous montre que le terme de la vie du Christ, c'est un acte sacerdotal. Le sacerdoce de Jésus, qui est le sacerdoce du Fils bien-aimé, selon l'Épître aux Hébreux. Sacerdoce du Fils bien-aimé, qui est un sacerdoce d'amour. Où l'œuvre du prêtre et la victime offerte sont identiques. Ça, c'est le propre du sacerdoce royal du Fils bien-aimé, le sacerdoce d'amour. Et l'œuvre de ce grand prêtre, c'est de réaliser un royaume de prêtres pour glorifier Dieu, pour glorifier le Père. Vous voyez, sacerdoce qui commande cette première vision d'Église. Et au fond, nous avons très peu le sens de ça. Alors, il faut prendre le sacerdoce en ce qu'il a de plus radical, c'est-à-dire le médiateur dans l'ordre du salut, le médiateur dans l'ordre de la vie et de la vie divine, vie de lumière. Peut-être médiateur de multiples matières. On peut être médiateur dans l'ordre politique, au point de vue humain. Je vous envoie quelqu'un qui arrangera tout. Cette personne qui est très habile et qui fera ça parfaitement. Oui, on connaît ça. Les médias jouent un rôle de médiation. Sacerdotal. Caricature du sacerdoce. C'est très curieux. C'est intéressant, vous allez voir ça. Comment le démon fait-il la caricature du sacerdoce du Christ? Posez-vous la question. Autrement, vous ne dépistez jamais le rôle du démon. Il faut être très intelligent aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut constamment interroger l'Esprit Saint. Autrement, on se laisse mener par celui qui n'a pas le droit de nous conduire, mais cette économie, cette théologie de l'économie divine, qui nous fait comprendre la croissance de l'Église, la mission de l'Église, comment l'Église est conduite par l'Esprit Saint, est conduite par des hommes, mus par l'Esprit Saint. Et que cette Église, c'est l'Église du sacerdoce du Christ. C'est un royaume de prêtres. Tout chrétien, comme chrétien, est prêtre. Sacerdoce royal des fidèles. Et est lié au sacerdoce du Christ. Le sacerdoce du Christ implique de fait, le point de vue du sacerdoce de la médiation et du sacerdoce royal des fidèles. Une sale gueule qui m'a piqué. Vous voyez comment le démon attaque. Pour vous distraire. Et c'est cette vision qui est très importante à saisir, de voir que de fait, on est en présence d'un royaume de prêtres et que c'est l'action du Christ qui est source de ce royaume. Et c'est cela qu'on doit essayer de comprendre. C'est la première vision. Donc vous voyez, tout de suite on se place dans ce point de vue du Christ sauveur. Alors ceci est d'autant plus impressionnant que le pape, notre pape, dans sa première encyclique, ou plus exactement, notre pape dans sa première encyclique montre que la mission de l'Église, c'est la mission du Christ. Et que la première fois qu'il vient à Paris, il nous dit que la métatentation que l'Église subit aujourd'hui, c'est justement d'oublier. Il n'y a plus de place pour le Sauveur. Pour la médiation sacerdotale, c'est ça que ça veut dire, en langage théologique. Parce que l'humanité croit qu'elle est arrivée à l'âge adulte et qu'elle est capable de se sauver par elle-même. Et donc elle n'a plus besoin du Sauveur. Dans cette vision, nous voyons tout de suite, et c'est intéressant de voir ça, on essaiera de comprendre l'ordre ensuite. Parce qu'il y a un ordre dans l'Apocalypse. On voit tout de suite le regard du Christ sur les sept églises. Et les sept églises expriment les sept églises de Jean. Ce royaume de prêtres, sept églises, qui sont corrigées par le Christ lui-même. Et par l'Esprit du Christ, à l'ange de l'Église d'Éphèse, à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, et celui qui marche au milieu des sept lampadaires d'or. Nous avions vu le symbolisme des lampadaires d'or et le symbolisme des sept étoiles. Les étoiles, c'est les églises. Et les lampadaires d'or. Non, les étoiles, c'est les anges. Et les lampadaires d'or, c'est les églises. Et Jésus marche au milieu. Cette vision d'église. Hein. C'est merveilleux de voir ça. Cette présence du Christ dans l'église. Alors, vous voyez combien ça fait comprendre qu'il ne peut pas y avoir théologie scientifique de l'Église sans la théologie scientifique du Christ. Et que l'Église, c'est le fruit du sacerdoce du Christ. C'est ça le mystère de l'Église. C'est le fruit direct du sacerdoce du Christ. Agens, agite, simile, simi. C'est le sacerdoce du Christ qui s'étend à travers les hommes, choisis par le Christ. Alors, ce qui me semble très intéressant au point de vue théologique, c'est que la correction des sept églises C'est un des rares lieux où l'on voit comment Dieu corrige l'Église. Et c'est le Christ lui-même qui les corrige. C'est pas le théologien qui corrige l'Église. Et ce n'est pas les fidèles qui corrigent l'Église. Vous voyez, écrire une lettre ouverte au pape en disant « Vous conduisez très mal l'Église », c'est un peu gros. On a envie de dire, prenez le gouvernement et puis vous verrez, quoi. C'est comme celui qui écrit au président de la République dès qu'il est élu, une lettre au président de la République. Mais prenez ma place si vous voulez, après on pourra critiquer. On ne peut critiquer quelqu'un que si on est capable de faire ce qu'il fait. On n'a pas le droit. C'est le vieux forgeron, ça j'ai vu ça une fois, critiqué par un étudiant qui venait de la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit quand l'autre critiquait. Il lui a remis son marteau. Faites-le. Après, on verra. C'est ça la critique de l'art. Faites-le. On n'a pas le droit de critiquer quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. On ne peut critiquer que si on est capable de le faire et de le faire mieux. Alors on peut le critiquer. Donc il n'y a que le Christ qui peut critiquer l'Église. La critiquer, la corriger. C'est très intéressant, vous voyez, parce que toutes les divisions de l'Église viennent des critiques. Chacun d'entre nous, nous critiquons, c'est évident. Et dans la mesure où on critique, on se met en dehors. Alors, la conversion de notre cœur consiste à dire, l'Église, elle est conduite par l'Esprit Saint. Je ne vois que les apparences, c'est pas l'Église. L'Église est un mystère. Et c'est vrai, les apparences, c'est pas l'Église. Et l'Église est un mystère. Et alors, ce qui est important dans cette correction, c'est qu'on voit tout de suite ce qui blesse le cœur du Christ. Alors, je vais voir très rapidement si cette Église, parce que ça pourrait tenir toute la retraite, du moins toute la session. Et ça nous montrerait. Alors là, il y aura un fruit merveilleux. Faites-le vous-même. Et je suis là pour vous faire travailler. Donc faites-le vous-même. Et je vous dis ce qu'il faut faire. Alors il faut le faire. À travers les corrections des sept églises, vous voyez les sept vulnérabilités du cœur de Jésus. Et comme le cœur du Christ étant le cœur du prêtre par excellence, cette expression de saint Thomas qui est si forte par rapport au sacerdoce du Christ. Il nous dit, fons sacerdotii. Le Christ est source de tout sacerdoce. Et c'est l'œuvre de son sacerdoce par laquelle il nous sauve. Or, il nous sauve dans une œuvre d'amour. Et le sacerdoce du Christ, c'est la surabondance de l'amour. C'est ça le sacerdoce royal des fidèles. C'est la surabondance de l'amour. C'est pour ça que le sacerdoce royal des fidèles, c'est la responsabilité que chacun d'entre nous, nous avons à l'égard de nos frères dans la charité fraternelle. La première parole de Jésus à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? C'est la première parole que Jésus nous dira. Ou plus exactement que Marie nous dira. On est responsables les uns des autres. Le prêtre est responsable, puisqu'il est médiateur. Il est responsable dans la charité fraternelle. Oui. C'est pour ça que l'explicitation du sacerdoce royal des fidèles se fait dans la nouvelle alliance. Puisque dans la nouvelle alliance, tout se termine dans la charité fraternelle. Et le mystère de l'Église est un mystère de charité fraternelle. Avant tout et en premier lieu. Puisque c'est un royaume de prêtres. Alors, à travers la correction des sept églises, on doit découvrir les sept vulnérabilités de l'amour du cœur sacerdotal du Christ. À ce point de vue-là, c'est très beau et c'est très grand. voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui a été mort et a repris vie. C'est le Christ qui est le premier et le dernier. Oui. Alors chacune des églises, c'est ça qu'il faut bien saisir, chacune des églises est liée à Jésus, au sacerdoce du Christ, sous un aspect particulier. C'est pour ça que c'est les sept églises qui reçoivent la plénitude du sacerdoce du Christ. Et chacune reçoit une modalité particulière. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui a été mort et a repris vie. Je sais ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui se disent juifs, et ils ne le sont pas, mais une synagogue de Satan. Hein, c'est rude, hein, comme correction. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez une affliction de 10 jours. Montre-toi fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur jamais ne lui nuira la seconde mort. Oui. Correction de l'église de Smyrne. Smyrne est tentée d'une fausse pauvreté. On dit aujourd'hui le complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité, c'est le repli sur soi et dire je ne sais pas faire ça. Et quelqu'un qui est pris du complexe d'infériorité, on lui met une tasse entre les mains, il la lâche, elle tombe, elle casse. Il y a des gens comme ça. Tout ce qu'on leur confie, ils lâchent, ça tombe par terre. Vous voyez, je suis incapable de faire quelque chose. Complexe d'infériorité. Smyrne est ça. Et c'est bien ce qui est dit. Il n'y a qu'à le voir. Je sais ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche. On ne voit que ce qui nous accable. On ne voit plus que cela. Et on oublie la richesse que Dieu nous a donnée, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. En face de Smyrne, ils ne sont pas vraiment juifs. Pour être juif, il faut croire. Il faut espérer dans le Messie. Autrement, on n'est pas juif. Mais une synagogue de Satan. Ceux qui ont reçu la grâce et qui ne veulent pas vivre de la grâce deviennent une synagogue de Satan. À cause du repliement sur eux. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. On a peur de celui qui est plus fort que nous à côté. Et alors on a peur de souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez une affliction de 10 jours. Donc une affliction qui va durer un certain temps. Mais comprends que cette affliction est limitée et que tu es victorieux. On oublie la victoire du Christ. C'est ça la faute de Smyrne. Vous voyez, Éphèse, c'est une faute par rapport à la charité. Smyrne, c'est une faute par rapport à l'espérance. À la place d'espérer, l'espérance fait que nous savons, en tant que chrétiens, que la victoire du Christ nous est donnée. Un chrétien est un homme victorieux. Pas d'une victoire temporelle, extérieure, et humaine, mais une victoire divine, parce qu'il est lié à Jésus Sauveur, il est lié à la médiation du Christ, et la médiation du Christ fait que déjà nous sommes au terme. Dès que le Christ est présent, on touche au terme, et le terme pour nous c'est la vie. vision béatifique. Alors, je dis pas qu'on a déjà dès cette terre la vision béatifique, mais on a la certitude d'être ordonné à la vision béatifique, à un bonheur unique, à une béatitude unique. C'est ça l'important. Tu es riche, richesse spirituelle, richesse divine. Et au fond, les luttes, le martyr, c'est une épreuve limitée. Montre-toi fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est ça le martyr. Le chrétien, le Saint-Père nous l'a rappelé dans l'encyclique Veritatis. Le Saint-Père nous a rappelé que tout chrétien est un martyr. Et que tout chrétien doit considérer que le martyr est au seuil de sa vie. C'est normal, puisque notre chef est mort sur la croix. Et nous sommes marqués du même signe. Chaque fois que vous faites le signe de croix, vous dites « j'accepte d'être martyr ». C'est pour ça qu'on n'aime plus beaucoup de le faire. Mais chaque fois que vous faites le signe de croix, vous acceptez d'être lié à la croix du Christ. Et bon, vous voyez, c'est ça l'espérance. L'espérance chrétienne, surnaturelle, elle nous lie à la croix du Christ. Et on est victorieux avec Jésus. Et le martyr est un homme victorieux qui dépasse les souffrances, qui les accepte pleinement et qui les dépasse complètement. Alors c'est ici, vous voyez, le vainqueur jamais ne lui nuira la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle. C'est la mort de l'âme. La première mort, c'est la mort visible, apparente, puisque l'âme ne meurt pas. Donc ce n'est qu'une apparence, la mort. C'est une réalité, c'est sûr, mais c'est une réalité qui n'atteint pas ce qu'il y a de plus profond en nous. Ce qu'il y a de plus profond en nous n'est pas atteint par la mort. Mais elle est atteinte par la seconde mort. C'est pour ça qu'on dit la seconde mort. Et celui qui a l'espérance n'est pas atteint par la seconde mort. Il l'a dépassée. Mais c'est très beau, Smyrne. L'espérance. Troisième. Vous voyez, on pourrait développer ça. C'est merveilleux comme examen de conscience pour la charité. Il faut vivre de la ferveur. Il faut vivre de la certitude de la victoire. L'église de Pergame, à l'ange de l'église qui est à Pergame, regardez sur une carte, hein, si ça vous intéresse, je mettez des petites points, là. C'est pas loin ces églises, se touchent. Voilà ce que dit celui qui a l'épée acérée à double tranchant, qui a l'épée acérée à double tranchant. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. L'église est située sur le trône de Satan. Tant qu'on est sur la terre, le trône de Satan n'est pas loin. On le sait. Et tu restes attaché à mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin, mon fidèle, qui a été tué chez vous, où le Satan habite. J'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et forniques. Ainsi, tu as toi aussi des gens attachés pareillement à l'enseignement des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viens à toi bientôt, je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Qui a des oreilles, entende ce que l'esprit dit aux églises. Au vainqueur, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, écrit sur ce caillou un nom nouveau que personne ne sait, sinon celui qui le reçoit. Curieux. Correction plus profonde que les deux autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien avec les doctrines des Nicolaïtes. Alors qu'est-ce que c'est que ces Nicolaïtes ? Ces Nicolaïtes, c'est une sorte de syncrétisme. Toutes les religions se valent. C'est un langage qu'on entend de temps en temps. Alors il faut s'adapter à tout le monde. Il faut s'ouvrir à tout le monde. Il faut prendre le bien de chacun. Soyez pas intransigeants. Il n'y a plus de détermination dans la foi. Il n'y a plus que cette fausse ouverture. Parce qu'on est lié à quelqu'un par la finalité, par la recherche de la vérité. Mais si on ne recherche plus la vérité, il n'y a plus de finalité dans notre intelligence. On s'ouvre à n'importe quoi. Les Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viens à toi bientôt et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. C'est Jésus lui-même qui viendra rectifier ce qu'il y a de contaminé dans le mystère de la foi. Ça, c'est très nettement le point de vue de la foi. Pergame ne sait plus ce que c'est que la foi. Les grandes alliances. Vous voyez, au fond, aujourd'hui, quand on fait une théologie en se servant des idéologies athées, du marxisme, on fait une théologie du travail avec Marx, on fait une théologie de l'amour avec Freud, on fait une télé, et ainsi de suite, toutes les idéologies athées. On pervertit la foi. Et on pervertit l'intelligence. Je me souviens toujours, j'étais jeune à ce moment-là, c'est ma dernière année, c'était en mathélème, on avait un professeur de mathématiques qui était un laïc, un polytechnicien, d'une originalité folle. On s'amusait beaucoup à son cours. Mais de temps en temps, il nous disait des choses qui étaient très, très pertinentes en dehors des mathématiques. C'est ça que j'ai retenu le mieux. Un beau jour, il nous a dit, mes chers amis, c'était en 1929 et 30. Mes chers amis, nous allons entrer dans la perversion de l'intelligence. Les attaques du démon vont toucher l'intelligence. C'est pas drôle, les perversions du cœur. Mais ce n'est rien à côté des perversions de l'intelligence. Quand l'intelligence est pervertie, qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux, le mensonge de la vérité, crise de la vérité, dit le pape. Perversion de l'intelligence. Et c'est vrai, ça. Pergame. Les Nicolaïtes. On est séduit par toute espèce de nouveauté. Du fait même que c'est une nouveauté, c'est intéressant. Ça nous intéresse parce que c'est une nouveauté. Que ce soit bien ou mal, ça n'a aucune importance. C'est la nouveauté. Vous voyez, les modes. Quand on dit que les théologiens sont plus sensibles à la mode que les femmes, ça en dit long. Bon, c'est pas de la même façon. Mais il y a un petit quelque chose de vrai. Mais la pire injure qu'on fait aujourd'hui à un théologien, vous êtes en retard. On dit pas vous êtes dans l'erreur. Mais non, vous êtes en retard. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en retard? C'est que la dernière mode, on ne l'a pas acceptée. On l'a laissée couler. C'est très significatif, ces choses-là. Oui, vous croyez encore au Père Noël, quoi. En définitive, ça revient toujours à ça. Vous êtes encore à croire à ces choses du Moyen-Âge, comme si la foi avait changé dans sa substance. Entre la foi d'Abraham et la foi de Marie, il y a une unité substantielle de foi. Entre la foi de Marie et notre foi, il y a une unité substantielle de foi. Entre la foi de saint Thomas et notre foi, il y a une unité substantielle de foi. Ça, quand on dit saint Thomas, c'était très bien pour le Moyen-Âge, mais c'est plus vrai pour nous. C'est pourquoi on n'a pas lu saint Thomas. Saint Thomas dépasse beaucoup le Moyen-Âge. Drôle. La cathédrale de Lille, Notre-Dame de la Treille, on a voulu faire, on l'a jamais terminé, on a voulu faire tout ce qu'il y avait de plus grand dans telle cathédrale, tout ce qu'il y avait de plus grand dans l'autre, faire une synthèse de ce qu'il y avait de meilleur dans toutes les cathédrales. Vous comprenez? Ça, c'est très, très artistique. C'est parce qu'on n'a plus aucun génie. Alors, on copie et on fait des trucs comme ça. C'est curieux. Je ne peux mettre mon intelligence service que de la vérité de Dieu. Je ne peux pas mettre mon intelligence au service de d'une intelligence humaine. Non. Cette phrase de saint Thomas, qu'il a repris du reste à Aristote, c'est une chose très très forte. Au point de vue philosophique, l'autorité est la dernière des raisons. Au point de vue philosophique, alors appliquer ça dans la vie, c'est l'orgueil. Claudel disait, j'ai entendu mes propres oreilles à Fribourg, je n'ai subi aucune influence. C'est désastreux. Le cher Claudel, je n'ai subi aucune influence. Ah, vous comprenez que ça risque. Ce n'était pas le cas, parce que c'était au point de vue artistique qui disait ça, mais ça allait quelquefois un peu plus loin. C'est ça l'orgueil. Je n'ai subi aucune influence. N'est intéressant que ce qui vient de moi. Tout ce qui vient d'un autre n'a aucun intérêt. Parce que ce n'est pas de moi. On ne dit pas parce que ce n'est pas la vérité, mais parce que ça ne vient pas de moi. Je suis source de toute vérité. Alors par le fait même, la foi disparaît. Puisque la foi, c'est accepter une autorité divine. Le croyant met en premier lieu l'acceptation d'une autorité divine. La foi implique cette ouverture de l'intelligence par l'amour et dans l'amour. Puisque le point de départ de la foi, selon le concile d'Orange, chaque fois que vous passez à Orange, rappelez-vous ça, hein, selon le concile d'Orange, le point de départ de la foi, c'est l'amour. Parce que l'amour incline notre intelligence à s'ouvrir, à recevoir la lumière de Dieu, à recevoir la parole de Dieu. C'est le propre de la foi. C'est l'amour qui incline mon intelligence à s'ouvrir. Mais l'acte de foi, comme tel, il est dans l'intelligence. Vous voyez, il y a le lien de l'amour et de l'intelligence dans la foi. C'est pour ça que c'est une connaissance affective. La foi est une connaissance affective. La foi n'est pas une connaissance spéculative. La théologie peut l'être, mais pas la foi. La foi est au-dessus. Elle est divine. C'est une participation à la lumière de Dieu. C'est ça que Pergame oublie. L'Église, à l'ange de l'Église qui Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de dont les pieds sont semblables à du bronze. Je sais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Et l'Église qui est à Thyatire est une Église en pleine effervescence, en plein développement, juste l'inverse de l'Église de Smyrne. Je sais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes esclaves, mes disciples, en leur enseignant à forniquer et à manger des viandes immolées aux idoles. Alors comprenez, la fornication dans le langage biblique, de sang, mais c'est avant tout ce point de vue-là. Je lui ai donné le temps de se repentir, Jézabel. Mais elle ne veut pas se repentir de sa fornication, donc de son idolâtrie. Voici que je vais la jeter sur un lit et plonger dans une grande affliction ses compagnons d'adultère s'ils ne se repentent pas de ses œuvres. Et ses enfants, je les tuerai par la mort, et toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, je dis aux autres fidèles de Thyatire qui n'ont pas cet enseignement avec Jézabel, ceux-là qui n'ont pas connu les profondeurs du Satan, comme ils disent, je ne vous charge pas d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez donné le ferme. Ceux qui se laissent à l'ombre, Jézabel, la prophétesse, demande qui est la Jézabel, notre fin du XXe siècle. Qui séduit. Qui attire. Il mène à l'idolâtrie. Et avec l'idolâtrie, toute espèce de fornication. Mais l'idolâtrie, c'est la fornication de l'intelligence. Et le vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Et je le ferai paître avec une houlette de fer, comme on fracasse les vases d'argile. Tout comme moi, j'en ai reçu pouvoir de mon père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Thyatire, c'est celle qui connaît les grandes luttes. Celle qui subit ce que le Saint-Père appelle la métatentation. La tentation de croire que il n'y a pas qu'un seul sauveur. Voyez, la tentation se trouve, j'allais presque dire, du côté liturgique. Une sorte de liturgie nouvelle qui singe la grande liturgie et qui conduit alors à cette sorte d'idolâtrie. C'est donc, j'allais dire, la corruption de la vertu de religion. Ce n'est plus la foi, l'espérance et la charité, c'est la vertu de religion. Parce que la vertu de religion, c'est celle qui nous apprend à adorer le Dieu unique, le Dieu créateur. On n'adore que le créateur. Et on ne peut pas adorer quelqu'un d'autre. Alors il y a une corruption par la séduction. C'est toujours comme ça. On est séduit intellectuellement. Et alors on ne voit plus. Alors on fait une synthèse, une fausse synthèse, un mélange. Alors, il faut se poser la question, quelle est la Jézabel de notre monde d'aujourd'hui? Je ne le dis pas, je le pense, mais je ne le nie pas. Mais j'ai contre toi que tu te laisses faire, que tu laisses faire, Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes disciples en leur enseignant à forniquer et à manger des viandes immolées aux idoles. Très fort. Oui, c'est du côté liturgique. Ce n'est plus les vertus théologales, c'est vraiment le point de vue de la vertu de religion et de l'expression humaine de la vertu de religion dans la liturgie. Et la l'ange de l'Église qui est à Sartre écrit : voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. que tu passes pour vivre et tu es mort. Montre-toi vigilant et affermis ce qui reste et ce qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, j'arriverai comme un voleur, et tu ne connaîtras pas à quelle heure j'arriverai sur toi. Mais tu as à Sarde quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en blanc, car elles en sont dignes. Le vainqueur, celui-là, s'habillera de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je professerai son nom devant mon Père et devant ses anges, qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez, c'est encore tout à fait différent, Sarde. C'est au fond, Sarde, une très grande lassitude. Une très grande lassitude. Celui qui considère que, en étant chrétien, il est toujours vaincu et en retard, et voit les autres passer devant. Cette espèce de sentiment d'infériorité parce qu'on est chrétien. Et Jésus vient réveiller cette sorte de lassitude. Et ça touche, je crois, toute la question de la prudence. On a peur de ne pas être à l'avant-garde. Et ceci peut vous prendre très profondément. C'est comme une sorte d'angoisse. C'est bien ça, Sarde. Alors on n'a plus aucune force. On ne combat plus. On est vaincu d'avance. Le vainqueur, celui-là, s'habillera de vêtements blancs. Vous savez bien que le blanc symbolise de l'Apocalypse, c'est la victoire, c'est la gloire de l'amour, c'est la victoire de l'amour, le blanc. On dit toujours le blanc c'est la pureté, c'est pas vrai. Le blanc c'est la victoire de l'amour. Alors parce que c'est la victoire de l'amour, ça implique la pureté, mais ce n'est pas cela que signifie le blanc. Au Moyen-Âge, les ordres, les moines s'habillaient en blanc. Presque tous. Parce qu'ils témoignaient de la victoire du Christ. C'est très curieux, du reste, de voir la couleur des habits religieux selon les époques. Je n'en dis pas plus. Et à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie écrit: voici ce que dit le Saint, le véridique, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'ouvre. Je sais tes œuvres. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce qu'avec ton peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je te donne de la synagogue de Satan et de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais ils mentent. Voici que je les ferai arriver. Ils se prosterneront devant tes pieds. Ils reconnaîtront que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé appeler ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et ne sortira plus dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom. Les Philadelphie, elles se sauvent par la petitesse. Très curieux. De la petitesse et la pauvreté, c'est l'église à Philadelphie. On ne la critique pas. Il n'y a aucune correction. Moi, je pense beaucoup à la petite Thérèse. C'est l'église à la petitesse. C'est l'église qui accepte d'être, aux yeux du monde, vaincue. Qui accepte d'être, aux yeux du monde, peut-être celle qui n'est pas à l'avance de tous les progrès. Parce qu'elle a choisi l'essentiel. Alors elle laisse toutes les séductions secondaires. Il y a l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véridique. Le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid et ou chaud. Ainsi, puisque tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que c'est toi qui es le malheureux, le misérable, le pauvre, l'aveugle, le nu. Je te conseille d'acheter de chez moi de l'or purifié au feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour t'habiller et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité. Un collier pour t'enduire les yeux et voir clair. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Et tout comme moi, j'ai été vainqueur et me suis assis avec mon Père sur son trône. Oui, qui a des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Laodicée, c'est la tiédeur, l'indifférence. La voyez? Et on demande la conversion totale. Il est temps, convertis-toi, convertis-toi. Tu tiens, je te vomirai. Alors, il y a eu des quantités de manières d'exprimer cette église. Certains ont regardé uniquement les sept églises de Jean. Mais vous comprenez que c'est un langage symbolique. Donc, c'est cette église type. Et alors d'autres ont regardé les sept églises comme tout le programme, ou plus exactement la croissance de l'église. L'église du début, l'église des actes des apôtres, l'église de Laodicée, la dernière, tout proche du retour du Christ. Alors, historiquement, c'est juste, on peut dire ça, et on peut dire aussi, parce que c'est symbolique. Alors ça ça c'est la difficulté du langage symbolique. Le langage symbolique n'a jamais qu'une seule signification. Il y en a toujours plusieurs. Mais il y en a une première dans un langage symbolique. Alors, je crois que dans ce langage symbolique, les sept églises représentent l'Église tout entière. Mais vous comprenez que Jean, puisqu'il n'est pas pape, il n'est pas successeur de Pierre, ne peut pas parler à l'Église universelle. Il n'y a que le pape qui peut parler à l'Église universelle. Il n'y a que le pape qui peut bénir toute l'Église. Et tous les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté. C'est la grâce du pape qui vient de Dieu, qui vient du Christ. Personne d'autre peut faire ça. C'est très très curieux. Et la manière dont le démon singe la catholicité. Le démon singe la catholicité, toujours par l'éclectisme. On supprime toutes les différences pour tout noyer dans le point de vue générique commun de tous. Alors on enlève toutes les qualités et on tombe dans quelque chose de matériel. C'est la grimace de la catholicité. C'est très intéressant de regarder le développement des sectes à ce point de vue-là, qui sont toutes des grimaces de l'Église, de la communauté des chrétiens. Et alors, nécessairement, la secte ultime devient la grimace de la catholicité, de l'Église universelle. C'est la secte universelle qui prend tout. Je prends tout, je reçois tout. Je fais l'unité par le point de vue fondamental, en supprimant toutes les différences. Alors, comprenons que je crois que chacun d'entre nous, il y a en nous les sept églises. C'est sûr. Nous sommes l'église Éphèse, chacun d'entre nous. Quand ce qu'il y a de meilleur en nous fleurit, on est aussi l'église de la Odyssée. Tendance, constamment, on porte tout en soi. Et les philosophes disaient que l'homme est un petit cosmos. Chacun d'entre nous, nous sommes le Christ. Lié au Christ. Lié à la totalité du Christ. Et Jésus agit sur nous. Alors voyez, mystiquement, donc d'une façon plénière, les sept églises expriment l'Église dans son cheminement terrestre. Et ça, je crois que c'est l'Église en son cheminement terrestre, avec cette diversité et cette unité, et avec toujours ces points de fragilité, les sept points de fragilité. Parce qu'il y a bien sept points de fragilité. Nos sept fragilités. C'est très curieux et c'est très important de voir ça. Les fragilités par rapport aux vertus théologales, les fragilités par rapport à la vertu de religion, les fragilités par rapport à la prudence, les fragilités par rapport à l'unité qui est en nous et auquel on doit faire attention. Et donc, ces sept églises expriment tout cela. Et les sept églises expriment aussi le développement de l'Église à travers les temps. Il ne faut pas prendre un seul point. C'est beaucoup plus riche que ça. Parce que c'est un langage symbolique. Il y a le symbolisme de l'église d'Éphèse. Il y a le symbolisme de l'église de Philadelphie. Il y a le symbolisme de l'église de la Odyssée. Et on s'en sort très bien. Mais c'est sûr qu'à certains moments, c'est l'église d'Éphèse qui prédomine. Au point de départ et au terme. À d'autres moments, c'est l'église de la Odyssée, la fatigue de l'Église, 2000 ans de parcours, on l'attend, il ne vient pas, on l'a attendu en l'an 950, il n'est pas venu, pourquoi l'attendre en l'an 1950 ? Aucune raison. Je ne rends pas plus. Et la lassitude. Oh, du fond, ça sert à rien. Ça sert à rien de se donner un peu de peine. On voit les fruits. C'est très net, la lassitude. Et c'est ce qu'il y a de dernier. Hein. C'est ça, c'est très net. C'est l'église de la Odyssée qui exprime le mal le plus profond, le plus radical. L'antithèse de la ferveur, c'est la tiédeur. Et la tiédeur, c'est le défaut capital contre l'amour. L'amour ne peut pas être tiède. C'est impossible. Quand on aime, on ne peut pas être tiède. On est fervent. La tiédeur. C'est terrible, la tiédeur. On a n'importe quelle forme. Ça, c'est l'église de la Odyssée. Et c'est peut-être la tentation la plus grande.